En direct des coulisses de Brave, retrouvons Marie-Josée Gagnon en compagnie de son invité.
Nous sommes le 21 février 2024 et je reçois Geneviève Tanguay, présidente directrice générale d'Ange Québec. Avec plus de 20 ans d'expérience en investissement, dont 15 ans au Fonds de solidarité, mon invitée a une carrière intense, comme elle le voulait à la sortie des HEC Montréal. Elle se doutait probablement moins de tous les apprentissages personnels et transformateurs qu'elle ferait au cours de ces années. D'une jeune professionnelle très ambitieuse à une dirigeante compréhensive, humaine, Geneviève a parcouru tout un chemin. Un chemin qu'elle nous raconte avec beaucoup d'ouverture. Ça donne un témoignage à la fois surprenant, poignant et fort utile. Bonne écoute. Bonsoir Geneviève.
Bonsoir.
Merci d'être là. Je suis tellement contente. Je suis convaincue qu'on va passer une heure passionnante. Et sais-tu pourquoi je suis convaincue?
Dis-moi.
Tu m'as dit, mes plus grandes leçons, je les ai apprises à coups de pelle.
D'en face.
Moi, là, je dis ça promet. OK? Fait qu'on attache notre sucre puis on part, OK? T'es née en novembre 1977 en Beauce. T'es fille unique. Ta mère avait 18 ans quand elle t'a eue. Ton père n'était pas présent, très peu, du moins, là, c'est ce que j'ai compris. Tu as changé 6 fois d'école pendant ta période primaire et secondaire. Qu'est-ce que ton enfance atypique t'a apporté?
Bien, tout ce que je suis, hein. Donc, c'est un... Parfois, on s'adresse à moi, donc je vis aujourd'hui à Outremont, puis souvent, on fait référence ou on s'adresse à moi en assumant que je viens du même story, hein, qu'on appelle un peu le single story, donc la même perspective, le même collège privé, la même route. En fin de compte, c'est tout ce qui nous construit, vraiment d'où on vient. Donc, ce parcours-là, je pense que tu l'as dit déjà, d'être en solo avec une mère monoparentale qui a l'énergie de ses 18-19 ans, ça amène vraiment une fougue, un goût de la vie qui peut tout à fait être différent. Le fait qu'on a une absence paternelle à ses côtés, certains me disaient quand j'étais plus jeune, « Ça doit te manquer d'avoir des frères, des sœurs et un père qui est présent », à laquelle je disais, « Je sais pas, j'en ai jamais vraiment eu. » Donc, c'est les choses qu'on n'a pas, parfois, nous manquent pas. Mais certainement, on pourra revenir au changement d'école, mais c'est plutôt... aujourd'hui, mes enfants ont fait le même primaire, vont aller à un secondaire du même quartier. C'est un chemin qui est différent. Moi, en fin de compte, je suivais les opportunités de travail, je suivais l'évolution de ma mère. C'était comme ça. Donc, on changeait de quartier, on changeait d'école, et puis ça amène tout son lot de qualité ou de capacité.
Oui, puis tu avais ta grand-mère aussi qui était proche de toi, très proche de toi, parce que considérant l'âge de ta mère, les conditions de vie aussi de ta mère et ta grand-mère, des personnes qui ont travaillé très fort, qui avaient parfois 3 travails pour joindre les 2 bouts. Peux-tu nous parler un peu de quel genre d'environnement économique tu as grandi?
Mais c'est un environnement qui est différent parce que d'abord, c'était des femmes qui n'étaient pas allées à l'université. Hein. Donc, ma grand-mère, 1e année, ma mère, 3e, fini à la moitié. Donc, ça amène un contexte différent. Par contre, c'était 2 femmes, et là, je ne le dis pas que c'est un avantage, mais qui étaient divorcées. Alors, c'était des femmes qui avaient... il fallait le faire, là, je veux dire, les deux. Alors, c'était des femmes d'une grande débrouillardise, très entrepreneuriale. Moi, ma mère, je veux dire, 3 travails. Donc, un soir, un jour, on les fins de semaine. Alors, moi, je ne faisais pas les camps de jour, là, puis les écoles de diction le soir. Là. Je suivais dans... On terminait l'école, donc le soir, je suivais dans le travail, les fins de semaine de la même façon. Donc, c'était cette réalité-là. Maintenant, est-ce qu'on est moins heureux comme enfant? La réponse, c'est non. C'est un univers qui est différent. Notre bonheur est tout à fait immense, mais ça amène des réalités, des expériences qui sont différentes.
En quoi... cette situation-là de précarité quand tu étais jeune t'a formé, a fait qui tu es aujourd'hui?
Donc, tu as nommé un mot qui est important, qui est la précarité. Donc, c'est un élément important parce que on m'a déjà posé une fois, dans le fond, qu'est-ce que tu as eu de ce bagage-là dans ta vie qui t'a probablement été le plus utile? Et j'ai envie de le dire parce que tu l'as nommé, c'est la précarité. Et la précarité, pour moi, a été quelque chose de déterminant. Dans mon envie, dans ma capacité de rêver, dans la valeur des choses, dans les choix qu'on a à faire. En fin de compte, cette précarité-là m'a préparée à vivre dans la réalité. Et des fois, tu sais, on en a parlé, je regarde mes enfants grandir et une de mes préoccupations, c'est pas qu'ils n'auront pas plein d'outils, mais c'est qu'ils puissent vraiment faire face à la réalité de la vie. Puis est-ce que moi, je suis en train de les préparer à cette réalité-là? Et c'est quelque chose à laquelle je réfléchis parce que cette précarité-là, puis qu'est-ce que ça veut dire la précarité? Nécessairement, on a eu de nombreux choix à faire, mais certainement, ça amène une capacité d'enrichissement et une lucidité qui est très différente. On devient un adulte plus rapidement.
Mm. T'es devenue aussi la parente, une coparente très jeune, n'est-ce pas? T'avais 20 ans, puis ta mère souffrait d'une maladie reliée à la glande thyroïde et ça a dégénéré au niveau mental. Peux-tu nous parler de cette époque-là?
Oui. En fin de compte, puis juste avant, donc moi, en quatrième année, je suis allée vivre chez ma grand-mère. Hein, donc, j'ai habité plusieurs années chez ma grand-mère. C'est un milieu, donc, de cette précarité-là, ma mère a pris cette décision-là, qui était une excellente... Alors, je me suis retrouvée à vivre avec ma mère et ma grand-mère, ce qui est assez enrichissant, là. Et puis, tout au début de l'université, donc, tu commences ton université, puis là, ma mère se met à moins bien aller. Donc, nécessairement, ça touche la santé mentale. Et comme elle a une précarité d'éducation... Mais pour ceux qui vivent dans la réalité, quand tu te mets être malade puis tu as un emploi sans condition, ben tu as à peu près 2 jours là, de salaire quand tu annonces que tu es malade. Tu n'as pas d'assurance, etc. Et dans son cas, c'est le cancer de la glande thyroïde. Et pour ceux qui connaissent la glande thyroïde, ça contrôle toutes les réactions chimiques et hormonales, ce qui fait que tu tombes en statut de santé mentale assez avancé. Mais avant qu'on puisse trouver, avant que ça soit réglé, on en a eu pour 2 à 3 ans. Donc, je me suis ramassée au début de l'université, en l'espace de 2 semaines, responsable de ma mère, de l'appartement, du contexte, de nos responsabilités. Et puis, ça s'est correctement passé, mais ça a été un parcours universitaire différent.
Je trouve que tu en parles avec aisance, là. Parle-nous un peu de... Ramène-nous à ce moment-là. Ça a l'air facile, là. Ramène-nous à ce moment-là. Tu as 20 ans. Ta mère ne peut plus payer pour l'appartement. Toi, tu commences l'université. Qu'est-ce que tu fais exactement?
Alors, je m'en vais au pré-étudiant. Moi, j'ai été chanceuse. J'ai pas dû... on avait un appartement, donc on était du côté de Sainte-Thérèse. Donc, quand ça arrive, les choses arrivent vite. Il y a une expression qui dit « get your shit together ». Donc, c'est ça. C'est sûr que tu es entouré de gens qui vivent dans des réalités qui sont différentes. La tienne est unique. Mais là, tu dois faire appel en toi à des outils, à des choses qu'il y a eu dans ta jeunesse, dans lesquelles tu peux trouver ces pouvoirs-là ou ces façons-là. Alors, clairement, ben, tu travailles. Donc, moi, j'ai travaillé toutes mes études, 4 jours par semaine, double chiffre les fins de semaine, les jeudis, le vendredi. Est-ce que ça a influencé le fait que j'ai fait pharmacie ou non? Probablement que oui. Là. Donc, finalement, j'ai fait finance, ça s'est correctement terminé. Mais c'était une réalité. Alors que plusieurs disaient que ça coûtait très cher à l'université, moi, je trouvais que c'était correct. Là, je prenais mes responsabilités. Les pré-étudiants, ils ont contribué. Mais ça a été possible.
Mm-hmm. Qu'est-ce que tu as choisi à l'université?
Qu'est-ce que j'ai choisi?
Oui.
J'ai fini par choisir finance, mais c'était pas du tout là où je m'en allais. Donc, j'ai fait mes sciences au cégep. J'étais chanceuse parce que j'étais vraiment excellente en mathématiques et en sciences. Je suis allée faire mes sciences du côté du cégep Lionel Groulx et j'avais aucune idée de ce que j'allais faire. Donc, j'ai vu on appelle ça un orienteur. À cette époque-là, on voyait ça, des orienteurs. Puis, ils me font penser que je pourrais peut-être vouloir aller en publicité. J'ai aucune idée pour quelle raison. Donc, je m'en vais visiter Publicis. Puis là, je rencontre des gens qui travaillent là. Puis je me dis, waouh, ça a bien l'air écœurant. Les bureaux sont géniaux. Les gens sont en création. C'est comme si je venais ici. Et là, j'ai décidé, moi, d'aller en marketing au HEC. Fait que je suis rentrée au HEC. J'ai été acceptée dans mes 3 choix à l'université. Et puis, finalement, marketing, c'était pas du tout intuitif. Je comprenais absolument. En fin de compte, je me rappelle, je vais te faire une anecdote, là, mais j'avais un professeur qui me disait, tu sais, répondre en key point, c'est pas suffisant. Il faudrait que tu développes tes idées. Puis moi, j'étais habituée aux sciences pour mathématiques. Puis je trouvais que le contenu était là. Je voyais pas ce qu'il y avait à élaborer. Là. Donc, ça a pas fait pour moi. Là, je manquais de cas de figure pour expliquer ce que je voulais. Donc, les chiffres se sont présentés. C'est la branche de la finance qui m'a le plus inspirée.
Oui. Puis là, t'es dans cette période-là du bac. Tu vas faire un bac en finance. T'es en charge de la famille. Et parle-moi de la fin de ton bac. Comment ça se passe? Puis qu'est-ce que tu décides de faire après ton bac?
Bien, ce que j'ai décidé de faire, c'est que, bien, d'abord, moi, je suis restée très tard chez moi, jusqu'à 25 ans. Donc, je suis restée jusqu'à temps que ma mère soit stabilisée, indépendante. C'était quelque chose d'important. Donc, tu sais, quand tu me dis qu'est-ce que j'ai fait, l'option, c'était pas je me trouve un job puis let's go, je pars, là. Donc, il a fallu que j'attende le bon moment.
Puis l'option, ça c'était pas non plus de te trouver un chum, là. Si j'ai bien compris, t'avais comme pas d'espace pour ça dans ta vie.
En fin de compte, l'histoire de construire des relations, je pense qu'elle vient de deux aspects. Moi, la première personne avec qui j'ai une relation sérieuse, avec qui j'ai habité, c'est le père de mes enfants. Donc, ma première relation, je me suis mariée deux fois. Mon mari est dans la salle derrière. Oui, on va en parler. Donc, première relation sérieuse, 29 ans, ça arrive quand même tard. Vivre avec quelqu'un, s'engager dans une relation. Dans mon cas, j'ai été chanceuse. Je suis vraiment tombée fondamentalement en amour. Mais pourquoi si tard? Pourquoi laisser peu de place à ça dans sa vie? Est-ce que c'est parce qu'on est occupé? J'ai envie de vous dire qu'on est toujours occupé à faire autre chose. Je pense que fondamentalement, quand j'y repense, quand je regardais mes amis qui étaient autour de moi, j'étais jeune, et quand je regardais le parcours de ma mère et ma grand-mère, la dernière chose que j'avais envie, là, c'était de m'enfarger d'une relation avec un gars. Moi, là, je rêvais d'une seule chose, c'est d'être autonome, indépendante, éduquée, puis que je puisse faire des choix. Ça, là, c'était ça qui m'intéressait. Donc, c'est vrai que j'avais l'air occupée à m'occuper d'un contexte de ma mère, qui était pour moi tout à fait naturel parce qu'elle s'était occupée de moi. Mais la vérité derrière ça, c'est que j'avais pas de temps à perdre. Et l'autre vérité qui est encore plus importante derrière, c'est que moi, la vulnérabilité émotionnelle, là, ça me tentait pas. Pantoute. Ben, je regardais ça, mes amis, là, qui tombaient en amour, là, puis deux, trois... Non, je regardais ça et je trouvais ça. Fait en quelque part, je pense qu'il y avait un spectre de la sensibilité qui était extrêmement développé. Et m'exposer à ça, je pense que je l'ai contrôlé longtemps. Fait que quand tu ne me connaissais pas, tu devais te dire, « Hey, t'es au top de sa game. Là, tu regardes, elle amène ça comme elle veut, elle fréquente quelques personnes, puis... tu sais, mais dans le fond, t'es juste en retrait. » T'es juste en attente, t'es juste en protection. Puis ça, bien, tu vas dans ta vie jusqu'à un certain moment.
Mais là, je pense à toi à 25 ans, puis je t'imagine dans, tu sais, là, des chevaux de course, là,
ouais,
qui sont dans le box, là, puis la porte ouvre, là. Ça, c'est toi à 25 ans.
Oui, donc ça, c'est moi.
Qu'est-ce qui se passe, là, quand ta mère, finalement, va mieux?
Ah ben là, ça, c'est exactement ce que tu dis. C'est le cheval dans l'enclos qui sort « And I am ready ». Et là, il faut comprendre, là, je vais rentrer dans ma vie d'adulte, je m'assume totalement là-dedans, je sens que j'ai fait ce que j'ai à faire, je me sens à l'aise et en confiance de laisser les choses derrière, parce qu'à un moment donné, il faut prendre des décisions, se lever. Et là, je rentre dans cette vie-là, dans mon rôle professionnel, et je dirais, je suis en train de construire le premier chapitre que moi, j'appelais dans ce temps-là mon empire. Donc, j'étais en train de construire mon premier empire. Ma volonté était déchaînée. J'étais pour la vivre, être dans l'action, atteindre ce que je voulais. J'ai appris d'autres choses en cours de route dans cette vingtaine-là, mais c'était comme ça que je me sentais. Bon, je me sens encore comme ça. Souvent, je le dis à mes équipes, moi, je ne fais que commencer. Je ne fais que commencer ma carrière, je me sens encore comme ça aujourd'hui.
Et là, c'est ça. Fait qu'à un moment donné, tu peux être enfin libre de faire tes choix. Fait que c'est quoi les premiers choix que tu fais à 25 ans, quand ta mère va mieux?
Déménager. Déménager.
Être tu passes de où à où?
Ah, je m'en vais à Montréal, à NDG. Donc, je suis à Sainte-Thérèse. Je me prends un appartement sur la rue Monkland. Je ne fais pas à manger. Je ne fais que manger au tavern sur Monkland. J'ai une vie que je considère à la mode. Et j'ai du plaisir. Et là, franchement, je m'amuse vraiment, vraiment de... Bref, je m'amuse, j'ai pas besoin de donner de détails.
Donc, elle s'amuse, elle a pas de relation sérieuse à ce moment-là.
Non, j'ai pas de relation sérieuse et ça m'intéresse toujours pas. Franchement, je viens de déménager. La dernière chose que je veux, c'est un chum chez nous. C'était la première fois... Tu sais, vous savez, enfant unique, une mère qui est jeune, le père qui est pas dans le portrait, on devient la personne de son parent. C'est pas juste l'affaire là qu'il y a eu un épisode de cancer, de santé mentale et tout ça. On devient la personne de son parent. Notre mère nous aime, on est là, on est sa personne, elle va aller partout avec nous. C'est extraordinaire, là. Moi, ça m'a donné Moi, j'ai reçu de l'amour en quantité industrielle, de l'attention, de l'affection. Tu sais, ce qui a construit mes fondamentaux. Mais honnêtement, là, ça m'a donné de l'oxygène. Donc, quand je suis partie, enfin, j'allais respirer par moi-même. Et ça, honnêtement, là, c'était très essentiel.
Essentiel, oui. Et vous le verrez dans la suite, elle sera servie.
Le premier emploi que tu vas occuper en sortant de l'université, c'est à la banque Laurentienne. Tu vas être analyste financière. Après, tu vas aller à la Société d'aide au développement collectif des Laurentides. Hein? Tu vas aller en région.
Oui, pourquoi? Ça, c'est intéressant.
Oui, vas-y donc. Pourquoi?
Donc, troisième année d'université sur le campus, il y a la caisse de dépôt, puis tous les gens qui sont à l'université, là, il y a la course au stage, puis ça, c'est vraiment excitant. Donc, ils viennent, puis ils t'expliquent. Et je me rappelle d'avoir fait une session avec la caisse de dépôt, puis je me suis dit, OK, wow! Ce rôle-là d'investisseur est quelque chose qui a vraiment attiré mon attention pour différentes raisons. Alors, je me suis dit, qu'est-ce que ça prend pour faire ça? Je veux dire, directeur de portefeuille à la caisse de dépôt. Fait que je suis allée voir qu'est-ce que ça prenait. Pour être un directeur, tu sais, ça veut absolument rien dire, ce titre-là. Quand j'allais regarder ce qu'il faisait, ben globalement, ce qu'il disait, dans la version longue, là, parce qu'il disait 5 à 7 ans d'analyse financière. Déjà là, je trouvais ça long. Ensuite de ça, il disait avoir géré un portefeuille d'investissement, prendre des décisions et les présenter au conseil d'administration. Je m'en souviens encore, c'est comme si c'était hier. Puis le troisième, donc ça se cumulait comme ça, jusqu'à avoir des expériences en gouvernance et en gestion de portefeuille. Alors, je me suis dit, ben, let's go. On commençait par être analyste. C'est la première porte. Alors, j'ai commencé à la Banque Laurentienne, comme tout parcours classique. J'ai fait, je sais pas, peut-être 18 mois. Donc, j'avais déjà atteint mon maximum, mon impatience. Donc, oui, ça s'est déjà manifesté. Et là, moi, je voulais plus de responsabilités. Bon. Là, plus de responsabilités à la banque, analyste financier. Finalement, je me suis dit, parfait, moi, je veux faire de la gestion de portefeuille. Alors là, j'appliquais partout au centre-ville de Montréal, gestion de portefeuille. Puis là, ils trouvaient que j'avais pas assez d'expérience du haut de mes 18 mois. Donc, je me suis dit, clairement, c'est pas à Montréal qu'ils vont me donner ce que je veux. Donc, je me suis mis à regarder en région. Je me suis dit, il doit bien avoir quelqu'un de désespéré qui va vouloir me donner un rôle sur lequel je ne suis pas qualifiée. Mais je suis analyste financière et le prochain pas, c'est de devenir conseiller à l'investissement. Donc, ce poste-là, qui est la SADC, grosso modo, là, c'est Sous-Développement économique Canada. Il y a les CLD sous le gouvernement provincial. C'est des investissements en bas de 250 000 $ qui sont non garantis. C'est une première idée de ce que c'est un investissement en quasi-équité. Et tu présentes tes décisions d'investissement à ton conseil d'administration. Et je me rappellerai, quand je suis allée faire l'entrevue, le choc, le bureau est au-dessus du IGA, à Sainte-Adèle. Puis là, je me dis, moi qui étais gonflée d'être venue à Montréal, puis qui avait beaucoup de plaisir, et qui restait sur une rue à la mode, là, je me suis dit, oh, wow, qu'est-ce que je fais ici? Non, mais ça n'a aucun bon sens. Là, j'étais dans la salle d'attente pour l'entrevue, tu sais, c'était... Le bureau, c'était l'équivalent de 4 garde-robes et demi. Et je vous rappellerai que j'étais à la banque, tu sais, à Montréal, dans les grands immeubles. Et je me rappelle, elle m'a dit, non, mais juste va-t'en. Tu sais, fais pas l'entrevue. C'est n'importe quoi, ta réflexion de carrière. Et je suis restée. Et j'étais convaincue d'une chose. Un, c'est comme ça que j'allais avoir des responsabilités qu'on me donnerait pas à Montréal. Et deux, il était probablement se passer assez de choses dans cette organisation-là où, alors, dans les faits, qu'est-ce qui est arrivé? Bien, la personne que j'ai remplacée était déjà partie. La personne de qui je devais apprendre qu'elle avait un rôle mature est partie dans les 2 premiers mois. Puis ma directrice générale a démissionné dans les 3 premiers mois. Alors, je me suis ramassée à peu près là seule, conseillère à l'investissement. Hein? Je connaissais absolument rien du métier. Dans ce temps-là, à peu près, c'était tous des gros binders de clôture et tout ça. Puis là, je me suis dit... Ben là, il va falloir apprendre. Alors là, je me suis mis à regarder comment les dossiers d'investissement étaient écrits, à appeler à peu près toutes les gens que je voyais qui étaient nommés dans ces dossiers-là, les investisseurs, n'importe quelle personne qui pouvait me faire comprendre comment apprendre ce métier-là. Je l'ai fait, je me rappelle, seule. Il devait faire pas très clair dans ces bureaux-là. Et j'ai appris mes premières cordes du métier de l'investisseur dans un contexte à Sainte-Adèle, à la SADC, ça a été une expérience très pertinente pour la suite.
Absolument. Je suis tellement contente que tu racontes ça puis que tu prennes le temps de le faire parce qu'il y a tellement de gens qui ont 20 ans qui se posent tellement de grandes questions au tout début de leur carrière, tu viens de donner un chemin possible. Et là, ça, justement, ça va t'amener dans ta grosse job que tu auras, bien, ça commence pas nécessairement si gros que ça, mais tu t'en vas au Fonds de solidarité, puis tu vas rester là 15 ans, et tu vas ne faire que monter dans l'organisation. Peux-tu m'expliquer la transition entre les deux?
Alors, sur, j'avais un conseil d'administration, je vous l'ai dit, à qui je présentais mes dossiers d'investissement. J'étais là 2 ans et demi, et sur mon conseil, il y avait une personne du Fonds de solidarité. C'est un hasard, donc, à qui je présentais. Il m'a dit, Geneviève, il y a un rôle qui s'ouvre à Montréal, au Fonds de solidarité. T'es vraiment green, t'es vraiment jeune. Je pense qu'il me l'a dit 3 fois, j'étais jeune. Je vais vous le dire après, là, dans quel contexte je suis entrée au Fonds de solidarité. Mais il m'a dit, t'as tout ce qu'il faut. Tu réfléchis de la bonne façon, tu comprends les dynamiques, tes réflexes initiales sont bons. Bref, je t'encourage à aller faire l'entrevue. Donc, je suis allée faire l'entrevue au Fonds de solidarité. C'était dans la filiale des fonds régionaux. Donc, le bureau est à Montréal. Et c'était dans les investissements de 2 millions et moins. Donc, hein, les fonds régionaux, donc partout à travers le Québec, en équité. Alors, je suis allée faire l'entrevue et puis j'ai décroché mon emploi. Alors, cette espèce de chemin-là, je suis devenue analyste. Après ça, je suis allée conseiller à l'investissement et je suis revenue à Montréal dans un rôle de conseiller principal à l'investissement, mais dans un fonds institutionnel, dans une des filiales. Pour moi, était vraiment, puis on pourra parler des autres étapes, mais en cohérence avec cette espèce de vision initiale-là que j'avais eue d'en arriver là.
Tu es resté 15 ans, comme je disais, au Fonds de solidarité, entre 24 et 39 ans. Qu'est-ce que tu retiens de ces 15 années-là, quand tu y repenses? Là?
Mais quand je suis arrivée, j'avais 24 ans. Donc, j'étais la plus jeune des équipes au Fonds de solidarité, âge moyenne 55. Quand j'ai quitté à 39 ans, choc, j'étais encore la plus jeune, puis ils trouvaient que je partais vite. Ça, c'est une autre discussion. Donc, je trouvais que... Donc, j'ai fait plein d'équipes. Moi, j'ai fait plusieurs groupes.
Comment ça?
Bien, parce que dans ma volonté déchaînée, donc d'abord, il faut savoir qu'au Fonds de solidarité, c'est par secteur d'investissement. Donc, quand tu vas au Fonds de solidarité, qui est un institutionnel, bon, la beauté, là, c'est que j'ai commencé, c'est un peu comme les avocats qui vont dans les grands bureaux, là, il y en a ici, là, je les vois. Bien, tu sais, tu commences, puis là, tu es exposé à un nombre de transactions, un nombre d'industries, un nombre... C'est fascinant, là. Quand tu es une éponge, là, c'est exceptionnel. Le Fonds de solidarité, c'est une école d'investissement. Moi, je suis arrivée avec des gens très qualifiés, avec une maturité très, très jeune. C'était très atypique, mon recrutement. Premièrement, j'avais pas le look de l'emploi, là. Mais j'arrivais vraiment dans un contexte avec beaucoup, beaucoup d'expérience. Je suis rentrée dans le groupe Private Equity. J'ai commencé par les produits métalliques. Là, c'est deuxième, troisième transformation, les usines en région, les entrepreneurs. Déjà, équipe d'investissement, on est 60, il y a 3 femmes. C'est un milieu extrêmement masculin, très, très industriel. Quand je vous dis, je rentre dans les usines, là, à Métabetchouan, puis l'entrepreneur, il se dit, c'est clair qu'elle s'est trompée, mais comment tu veux que je me trompe? Je suis rendue à Métabetchouan sur le boulevard, là. C'est clair, je me suis pas trompée. Donc, j'avais vraiment 2 minutes pour établir ma crédibilité puis que je m'étais pas perdue sur mon chemin. Fait que ça, déjà, là, ça m'arrivait puis c'était constant. Donc, fallait que tu augmentes ta game rapidement. C'était attendu de toi. J'ai commencé dans les produits métalliques. À un moment donné, j'étais allée dans le matériel de transport, les manacs et ainsi de suite. Mais là, j'allais cogner à chacune des portes au Fonds de solidarité et je me promenais puis je leur disais, ben moi, je vais faire des deals puis ça me dérange pas qu'ils soient pas dans mon secteur. Puis je vais les faire les fins de semaine puis je suis pas obligée de les gérer puis ils sont pas obligés d'être dans mon portefeuille, mais je vais faire des deals. Puis là, Norma Schooner me disait, Geneviève, patience, arrête de dire ça partout. Mais Janie Bic, elle m'écoutait. La connaissez-vous, Janie Bic? C'est elle qui dirige le Fonds de solidarité aujourd'hui. Bien, elle m'écoutait. Elle m'appelait et elle me disait, « Bon, j'ai un petit deal pour toi, le Gibet. Oh, Médiagriffe, ça te tente-tu de le faire? » Mais qu'elle m'alimentait. Elle me donnait, parce que Janie Bic, quand tu lui dis que tu veux travailler et tu veux faire quelque chose, quand elle voit du courage et elle voit de l'ambition, elle sait repérer le talent. Hein? Donc, elle a cette qualité-là. Alors, au Fonds de solidarité, honnêtement, j'ai changé d'équipe, j'ai fait beaucoup de choses et j'ai terminé, je vais terminer là-dessus, sur le groupe des sciences de la vie. Là, vous allez dire, les sciences de la vie, qu'est-ce qu'elle faisait dans les sciences de la vie au Fonds de solidarité? Je suis allée vivre à Cambridge. Le père de mes enfants a fait une maîtrise à MIT. Je suis allée là 1 an et demi. J'ai téléphoné toujours Janie, qui était rendue vice-présidente au Fonds de solidarité. Je lui ai dit, Janie, je peux pas revenir dans le private equity. Écoute, je suis à Boston, puis les technologies, les sciences, le capital de risque, moi, je veux m'en aller dans les équipes de capital de risque. Bien, Janie, hein, qui est égale à elle-même, elle m'a dit, ben parfait, tu vas aller aux sciences de la vie. Tu sais, sciences de la vie, là, on est dans le développement de médicaments, on est en pré-revenu. C'est pas vraiment la même thèse là, que de placer un placement privé d'une société opérante. Pour ceux qui connaissent les EBITDA, il n'y en a pas. Donc, et là, tu te mets à co-investir. Et c'est là que je suis vraiment tombée dans le capital de risque, dans les différentes rondes, à sortir du marché du Québec. Et vraiment, ça a été 14 ans, mais j'ai tellement fait de choses.
Parle-moi de ton style. Tu sais, quel genre de professionnel étais-tu?
C'est une bonne question parce que, tu sais, on se voit partiellement. Donc, nécessairement, je pense que vous le voyez là en termes. Quand je suis arrivée, moi, ce que je voulais, là, c'était apprendre, c'était me développer, c'était ma curiosité. Honnêtement, peu importe le titre ou le carcan qu'on me donnait, là, ça me passait 10 pieds par-dessus la tête. Alors, j'avais un petit peu d'impatience qui était parfois slightly, pas de l'arrogance, là, mais quasiment, là. Je le dis parce que dans la vingtaine, c'est un peu comme ça. Hein. On a des grandes forces, mais on connaît pas encore toutes les downsides de ces forces. Et mais certainement, quel type de professionnel je suis, il faudrait que tu me poses sur quel angle.
Non, mais comment tu te comportes avec tes collègues? Ah, c'est quoi ta réputation?
Mais ma réputation, c'est ben, par exemple, Janie Béic me téléphone, puis elle me dit, Geneviève, on va repositionner l'activité d'investissement en fonds de solidarité. Puis je me suis dit, papa, pourquoi tu m'appelles moi? Tu sais, je veux dire, c'est McKenzie qui va faire le mandat et je vous rappellerai que je suis toujours la plus jeune des équipes. Donc, elle dit, ben parce que tu t'enflorgeras pas dans les fleurs du tapis puis tu vas nous en donner une recommandation. Fait que ça, c'est excellent. Effectivement, elle ne se trompe pas. Là où je pense qu'il y a des apprentissages, c'est que dans la vingtaine, orientée sur le résultat, capable de me faire mon opinion, prendre des décisions, tout ça, c'était là. L'élément sur lequel j'ai dû probablement le plus travailler ou développer, c'est embarquer les gens dans cette vision-là. C'est pas penser que les relations humaines sont accessoires. Puis à un moment donné, puis là, vous allez me dire pourquoi je me dévoile comme ça, parce que ça, faut vraiment y aller dans le vrai de la chose.
Parce que c'est utile, Geneviève.
Mais je pense, si je suis honnête, là, la rigoureuse honnêteté, là, dans ma vingtaine, je pense que ça faisait partie de mon scénario et je manœuvrais dans mes relations probablement professionnelles dans lesquelles il y en avait très, très peu de personnel. Donc, moi, je me livrais à peu près dans rien. Là. Et puis, pour atteindre mes résultats, ben, tu sais, j'allais puiser dans différentes directions sans jamais dévoiler, sans jamais porter une véritable attention, authenticité à l'être humain qui est avec toi. Donc, je dirais qu'après un certain temps, tu as des apprentissages puis tu obtiens des résultats qui sont mitigés. Parce que pour certains qui ont 20 ans ou 25 ou 30, pour moi, là, l'intelligence intellectuelle, là, c'était ça qui était important. Puis moi, je comprenais, puis j'étais empressée de dire aux gens pourquoi j'avais compris. Hein? Mais vous savez, là, tu sais, je vois des gens, je vois Séverine, je vois plein de gens devant moi. C'est insuffisant pour diriger des organisations, pour allier les gens à tes projets, pour être capable. Tu sais, moi, les relations politiques, là, c'était comme ça. Là. C'était juste en haut. Moi, les relations politiques, là, vers on connaît ça. Mais les relations politiques sont latérales et sont en dessous de soi. Les plus importantes dans l'influence, l'adhérence, mais tout ça, c'est des concepts qui sont venus plus tard. Puis nécessairement, il a fallu que quelqu'un me ramasse. Hein?
Raconte.
Parce que sinon, tu comprends pas, tu es parti sur ton heure de gloire, tu atteins tes résultats, tu es dans ta locomotive. Quand je vous ai dit que j'étais en train de bâtir tu rebâtis ton histoire, ton storytelling, tes nouveaux succès, t'es enchaîné dans cet univers-là et jusqu'au jour où tu as un collègue. Moi, j'ai eu un collègue dans mon équipe qui mentorait plein de jeunes, qui l'a pas fait de la bonne façon, mais c'est pas grave. Qui un jour m'a écrit un courriel en CC à mon boss pour me dire, grosso modo, là, je vais essayer de le dire tel que c'est, là, pour pas changer la réalité, mais c'est un peu trop agressif ton affaire, tu contournes, tu vas atteindre tes résultats, t'es pas une joueuse d'équipe, puis là, je me suis fait ramasser une bonne lettre et demie, puis auquel j'étais arrivée dans le bureau de mon directeur, puis je dis, hey, non, mais sérieux, là. Hey, moi, je travaille au Fonds de solidarité, là, ça fait 9 ans, puis ça m'est jamais arrivé. Puis blablabla, puis blablabla, puis blablabla. Puis là, auquel mon directeur, il a dit, parfait, il a dit, as-tu fini? Ben j'ai dit, oui, j'ai fini maintenant, dis-moi ce que tu penses. Ben il dit, as-tu pensé qu'il n'y a jamais personne qui a le courage de venir dans ton bureau pour te le dire. Aïe, aïe. Là, ça m'a fessé parce que, ben là, c'est parce que c'est vrai qu'il n'y a jamais personne qui a peut-être eu le courage de venir me dire. Puis je suis obligée d'admettre que, d'abord, la façon qu'il l'a fait, j'ai trouvé ça, tu sais, je veux dire, c'était pas nécessaire de le faire comme ça. Mais je pense que ça me prenait un ajustement ou une réflexion qui était assez majeure. Puis quand je regarde ça, puis je prends un step back, il y avait un fond de vérité dans le message. Il y avait un apprentissage. Puis honnêtement, je l'ai eu à ce moment-là. Puis je me suis réellement dit, je pense que dans mon histoire puis dans mon plan, cette volonté-là déchaînée d'atteindre mes résultats, au détriment de peut-être vouloir contextualiser les choses, de le faire au même rythme qu'une autre personne, de partager mes succès, ou du moins, tu sais, quand tu enlèves pas tes filtres de l'ego, là, puis tu te poses pas les bonnes questions, tu te dis, hey, non, mais regarde, moi, je suis une fille d'équipe, là, c'est quoi son problème? Hein? Puis dans le fond, là, tu sais, j'y ai dit hier, tu sais, il avait juste embarqué dans le raid, là. Mais quand tu t'appliques les vraies questions, puis tu réalises que c'est fou comment tu peux progresser. Et quand tu changes ta méthodologie et que tu récoltes les fruits, et que tu te rends compte de ce que ça peut amener, waouh, là, tu t'en vas plus loin.
Le courriel de son collègue a clairement donné lieu à des apprentissages qui l'ont transformé. Parce qu'elle l'a bien voulu aussi. Voilà Geneviève qui continue d'avancer sur le chemin de sa vie. Continuons le récit.
Alors, moi, je suis revenue en congé de maternité, puis là, j'étais au bureau, puis là, je suis devenue émotive, puis là, mon boss m'a dit, ça y est, elle s'en va. J'ai dit, non, mais c'est juste parce que... Il dit, parce que quoi? C'est parce que je suis enceinte. J'en revenais pas. Je suis revenue de mon congé de maternité enceinte. Non, mais il fallait le faire. Mais c'était pas prévu comme ça. Donc, puis je me rappelle, j'étais vraiment déconfiturée. Fait que j'ai dit à mon équipe, là, je m'excuse, il va vraiment falloir que je vous parle. Puis là, j'essayais de me ramasser à la salle de conférence. Puis eux, ils étaient sûrs que j'allais annoncer ma démission parce qu'il y a beaucoup de femmes qui reviennent de leur congé de maternité puis éventuellement qui prennent une autre décision. Et non, je les ai eus back-à-back comme ça. Donc, deux enfants qui ont dû y mettre au moins 5 ans avant de dormir au moins 2 heures. Donc, je pense que j'étais à 156 livres. À ce temps-là, j'étais à 132. Là. Donc, c'est ça. Donc, wow. On passe par là. Ça fait partie du...
Puis là, tu as tes deux enfants et tu vas te divorcer.
Ouais.
C'est toi qui quitte ton mariage. Peux-tu nous en parler? Puis comment t'as vécu ça?
Bien, ça, c'est l'expérience de vie la plus difficile que j'ai vécue. Donc, ça, c'est défaire mon propre empire. Et qu'est-ce que ça veut dire, en fin de compte? C'est que jusqu'à un certain moment dans sa vie, on a l'impression que ce qui arrive, ce qu'on a fait, ce qu'on a investi est le résultat de nos actions, notre intelligence, puis... Tout fonctionne. Puis, j'avais monté mon empire tel que moi, je me l'avais défini. Sauf que le divorce a vraiment été pour moi défaire cet idéal-là. Moi qui l'ai défait. Une incompréhension sur peut-être mon état émotif. Et là, je suis obligée d'admettre que ce qui m'avait permis de réussir ma vie jusque-là était insuffisant. Pourquoi? Pourquoi est-ce que j'allais pas réussir ma vie telle que je l'entendais? Mais je suis obligée de dire aujourd'hui qu'il me manquait des éléments d'intelligence émotionnelle, qu'il me manquait des éléments d'intelligence spirituelle, puis que mon intelligence intellectuelle et rationnelle est insuffisante. Mais j'ai envie d'amener une autre perspective, c'est que quand on se développe dans sa vingtaine, on s'en sort sur ce qu'on a vécu, les difficultés, les traumas, en surexposant certains comportements. Et ça, ça nous permet de réussir. Mais tôt ou tard, va arriver un moment dans notre vie où ils vont nous empêcher de réussir. Puis c'est un paradoxe qui prend un certain temps à comprendre. On comprend pas ça là, à 24 ans. Mais il vient un moment dans sa vie où il faut changer certains éléments, il faut prendre conscience, il faut développer autre chose. Et moi, ça m'a rattrapée. Donc, quand mon empire s'est écroulé, parce que c'était comme ça, auquel je me référais dans ma tête... Ben là, je sais pas si vous en connaissez beaucoup de femmes, là, partner dans des bureaux qui parlent qu'ils sont en train de se divorcer, là. Mais là, c'était le silence radio. Fait qu'à chaque matin, là, j'allais au bureau, j'étais, je vais le dire poliment, déconfiturée, pas dire l'autre mot. Et il fallait que je fasse à semblant que j'allais bien. Et ça a duré plusieurs mois et j'ai trouvé ça d'une difficulté. Donc, imaginez-vous, la femme qui se divorce, c'est-tu vraiment quelqu'un qui veut parler de ça? Puis imaginez-vous quand c'est toi qui s'en vas à ce moment-là. Les femmes qui quittent, hein, ou qui défendent leur famille, il y a un élément, puis là, vous allez dire, bon, elle est bien pas fine, hein. Donc, je fais une blague, mais c'est pas un sujet qui est populaire, là. Tu sais, tu te retrouves pas à faire les clubs sociaux. Donc, le père de mes enfants et moi, là, on était des ex-présidents de la Jeune Chambre, on était engagés dans les causes, on faisait du fundraising, on avait une identité sociale, on occupait cette identité-là. Et honnêtement, ça, cet élément-là, pour moi, a été... Tu sais, tu parlais de ma mère, sa santé, à rien comparativement à ça. Rien.
C'est l'épreuve la plus difficile que tu as traversée.
Ben, jusqu'à maintenant.
Tes enfants avaient 2 ans et 4 ans à ce moment-là. Et comment ça se passe? Combien de temps ça va durer, ton mal-être?
Je vais dire le mot, là, la souffrance.
La souffrance.
C'est ça que c'est, là. Vous allez voir, vous allez traverser des périodes. En tout cas, y en a-tu qui ont déjà passé des périodes de souffrance, là? Des vrais, là. You are suffering. OK? Donc, et ça, là, c'est pas juste tu te lèves un matin puis c'est un petit down, là. C'est un état qui est constant et permanent. Donc, moi, dans mon cas, aujourd'hui, une de mes plus grandes forces, c'est ma sensibilité, mais longtemps, j'ai vu ça comme une faiblesse. Moi, là, dans ma jeunesse, là, ça m'intéressait pas, là. La vulnérabilité, la sensibilité émotive, là, les gens à risque. Tu sais, c'était, là, j'allais me monter cette force-là. Donc, j'ai vécu, si tu t'appelais ma psychologue, là, parce que ceux qui n'ont jamais fait de thérapie, c'est une bonne idée, ça aussi, là. Je vous le dis tout de suite, là. Ben, elle vous dirait que je suis probablement dans les cas les plus sensibles qu'elle a rencontrés. Donc, tu sais, deep dedans, là, la souffrance 2 ans, 3 ans, elle a commencé à aller correct, puis 5 ans, au bon équilibre. Ça, c'est long, là.
J'ai vraiment sensible. L'impression qu'on est en train de bâtir, l'empire. Ton autre empire, ton empire intérieur, là, le vrai probablement. Là.
Exact.
Hein? C'est ça qui est en train de se passer. Là. Tu sais, quand tu as ce coup de pelle-là au bureau, quand tu décides de divorcer, mais tu, dans le fond, tu te reconstruis, puis tu vas prendre une autre décision. Tu prends beaucoup de décisions, Geneviève, des décisions courageuses. Entre autres, elle prend une décision courageuse de nous raconter aujourd'hui le courriel de son collègue. Sérieusement, il y a plein de gens qui vivent ça, puis ils n'osent pas le raconter. Puis je te lève mon chapeau. Là, tu vas décider aussi de quitter le fonds de solidarité alors que ça va bien. Dis-moi, qu'est-ce qui va motiver cette décision-là?
Everything in myself. Donc, le gut feeling, là, c'est quelque chose qui nous habite. On ne peut pas le définir. Il y a quelque chose en soi. Moi, je savais pertinemment, ça faisait au moins 2 ou 3 ans. Vous savez, ceux qui ont fait les parcours dans les grands bureaux, moi, tout ce que j'avais connu, mon DNA, c'était le fonds de solidarité. Et les gens et les leaders qui m'entouraient me disaient, Geneviève, là, c'est le parcours d'ascension, puis la carrière, puis tout ça. Puis moi, dans mon gut feeling, là, je me disais, ah non, non. Non, c'est, je veux dire, c'est bien le fond, là, j'ai adoré ça. Mais j'avais la certitude que je devais aller découvrir une autre culture, une autre façon de travailler, un autre modèle d'affaires. Si j'allais un jour devenir gestionnaire du fonds, c'est d'abord et avant tout parce que j'allais quitter le fonds de solidarité. Puis je pensais, j'étais convaincue que si j'allais revenir un jour, je reviendrais avec une expérience pas mal plus concluante. Et ce gut-là m'a habité. Et certains vont choisir de... Puis j'en rencontre à toutes les semaines. Mon mari est headhunter d'ailleurs, mais moi, il y a plein de gens qui viennent à moi à toutes les semaines. Hier, j'avais encore une rencontre qui me disent, j'aimerais vivre une transition de carrière. Comment je devrais la faire? Moi, ce que j'ai choisi de faire, c'est quitter mon emploi, planifier ma sortie, ne rien avoir et accepter, avec l'objectif de créer un espace, d'être capable de voir les choses différemment, parce qu'il y a une chose que j'étais convaincue, c'est tant aussi longtemps que je resterai au fond de solidarité, je pense pas que je pourrais voir les choses différemment. Je pense pas que j'aurais une énergie. Alors, tu sais, moi, j'ai pris une pause et ça a été une de mes meilleures décisions de vie. Et quand j'ai annoncé ça au Fonds de solidarité, je l'ai annoncé 7 mois avant mon départ. Le dernier jour que j'ai travaillé au Fonds de solidarité, j'ai fait ma transaction la plus importante de ma carrière, un vendredi, 50 millions chez GEM Pharma. Quand même, ça devait bien aller, là. Et les gens, j'ai des gens qui me disaient, mais pourquoi tu fais ça? C'est quoi ton problème? c'est pas toi, là, tu es ambitieuse, c'est sûr que tu t'annonces. Pourquoi tu fais ça? Tu, quelque chose ne va pas? Tu sais, c'était comme l'affluence de questions. Fait, je me suis assise avec mon président de conseil, Robert Parizeau. À ce moment-là, c'était Gaétan Morin jusqu'à Alain Denis et Didier Lecomte. Je leur ai expliqué pourquoi j'allais quitter le Fonds de solidarité. C'était quoi ma démarche? Puis qu'est-ce que je cherchais comme objectif? Les personnes les plus importantes ont compris, mais l'absence de réponse que j'avais pour les gens, ça, sur la place publique, c'était assez intéressant à voir. Parce que les gens, ils veulent comprendre, tu sais, puis dans leur incertitude, dans leur incompréhension. Alors, ils m'ont dit toutes sortes de choses. Tu as un enjeu de santé mentale? Pourquoi faut-tu prendre un break? Es-tu enceinte? Mm-hmm. J'ai eu le droit à tous les diagnostics. Et j'admettais que j'avais pas la réponse. Et je ne la voulais pas, en fin de compte.
Là, ils doivent être rassurés, là, t'es présidente d'Ange Québec. mais dis-moi, qu'est-ce que ça t'a apporté de prendre cette décision-là? Parce que, bon, brave, hein, c'est sur le courage. Puis moi, je sais que quand on prend des décisions courageuses, il y a plein de bénéfices à cela. Fait que ça a été quoi, les bénéfices de ta décision courageuse?
But you own your thing, right? So, pour moi, c'est vraiment de prendre action dans ma vie, de créer un changement. Je sais que quand je l'ai fait, le statu quo, il va se produire un outcome différemment. I trust my gut. Ma carrière, je ne la mesure pas sur 5 ans. Il y a des gens qui m'ont dit, oui, mais tu sais, financièrement, ben oui, c'est une décision qu'on prend. Mais honnêtement, ce que j'aime, et ça, je vais l'avoir répété 3 fois dans ma carrière, et je vais le faire comme ça aussi dans mon mandat chez Ange Québec, je vais dessiner ma fin, je vais changer mon statu quo, et j'adore owner cette narrative-là. I feel amazing into that state.
Son départ du Fonds de solidarité, ce saut dans le vide, a généré une nouvelle réalité pour elle. Une nouvelle Geneviève s'en vient, et on va creuser cela ensemble dans les prochaines minutes. Ma première question pour elle, qui es-tu devenue grâce à ce départ?
Je suis devenue personne, donc... C'est très, très drôle parce qu'au début, tu te promènes, t'es habitué de parler de toi, tu te définis. Puis, une chose que j'ai pas dite au Fonds de solidarité, c'est que j'ai fait beaucoup de gouvernance, beaucoup de conseils d'administration. Ça a vraiment été un parcours exceptionnel parce qu'à ce moment-là, on nommait les employés qui représentaient l'actionnaire sur les conseils d'administration. Ça se fait plus aujourd'hui, là. Mais ça m'a permis de faire 20 de conseils de sociétés privées, ce qui était vraiment un privilège. Mais quand j'ai terminé, je me rappelle, 4 mois plus tard, j'étais en Italie en voyage, puis quelqu'un me disait « Ah, qu'est-ce que tu fais? » Puis là, je recommençais mon histoire, je travaillais au Fonds de solidarité. Puis là, je me disais hey, « Non, mais lâche-la, l'histoire, là. Non, mais ça fait 4 mois, là. Sérieusement, là. Tu peux... » Alors, quand tu dis « Qui es-tu devenu? » Alors, moi, je suis devenue un parent qui allait à l'école. Je veux vous dire que je le dis pas avec fierté aujourd'hui, mais à chaque fois que je suis dans des périodes de travail très actives, je suis le parent qui va à l'école 4 ou 5 fois. C'est vraiment insuffisant. Donc, quand je travaille pas, je vais à l'école à 3h30. Je fais une sortie éducative. Je suis le parent qui aide tous les autres enfants. Donc, je suis devenue juste cette personne-là à l'intérieur de face à moi-même, sans identité professionnelle. Puis ça, si vous avez écouté d'où je viens, là, pas avoir d'identité professionnelle, là, c'est pas mon fort, là. Hein, tu sais, pas avoir d'histoire, là, qui... Puis là, il faut que tu changes ta narrative.
Puis qu'est-ce que ça t'a permis de faire? Parce que là, on a regardé ce que ça t'a permis de devenir, mais qu'est-ce que ça t'a permis de faire arrêt-là?
Du travail sur moi. Donc, ce qui est extraordinaire quand on prend une pause, c'est qu'on peut se mettre à sa version 200%. Et là, moi, j'ai vraiment eu presque une pause de 9 mois. Donc, tu sais, tu te mets à t'entraîner 3-4 jours par semaine. C'est-tu le fun d'aller t'entraîner quand t'as du fun? T'as du temps, tu sais, tu te mets à cuisiner, tu vas voir tes enfants. Moi, j'allais en thérapie au moins 2 fois par semaine parce que je suis une believer de ça. Et là, je me suis mis à lire parce que nécessairement, moi, l'épreuve, mais qui est aujourd'hui, qui fait partie de mon parcours de vie, mais le divorce, pour moi, ça a été la chose la plus importante qui s'est produite pour me rendre en état d'éveil. L'état d'éveil, là, c'est « when you wake up ». Puis quand tu te réveilles, puis tu admets, là, parce qu'il faut que tu passes aux aveux, là. Si tu passes pas aux aveux, ça se produit pas, tu admets que, selon moi, j'avais pas... pu réussir ma vie comme je le voulais, puis je me suis questionnée pourquoi, puis qu'est-ce que j'avais à mettre en place pour ça. Et là, j'ai passé beaucoup de temps à y réfléchir, à rencontrer des gens, à parler de ça, à faire des lectures. Et vous savez, puis je vois Geneviève devant moi, je connais, tu pars d'un sujet, puis ça t'envoie à l'autre. Et qu'est-ce que ça m'a permis de faire? Ça m'a permis d'entrer dans le vrai travail intérieur. Mais là, à tous les points de vue, puis comme vous savez que je suis empressée, j'étais empressée de me sentir mieux. Donc, quand je raconte ça, c'est le fun, le timing, j'ai quitté le bureau, bon, tu sais, ça a l'air d'une belle transition, tout ça est planifié, mais si je suis vraiment sincèrement honnête, ça a été un moment de reconstruction. Ça a été un moment où j'ai reculé en arrière, et c'est vraiment cette expérience-là qui m'a rendue aujourd'hui à une bien meilleure personne.
Concrètement, qu'est-ce que tu as changé? As-tu changé des choses?
J'ai changé plein de choses.
Qu'est-ce que tu as changé?
Concrètement, c'est tellement une bonne question. Il vient un moment dans sa vie où il faut prendre des décisions par rapport à soi-même. Puis là, tu es dans le chemin des moins fréquentés, là, puis tu es tout seul. Tu es seul parce que quand tu te sépares, tes enfants sont là, mais il y a plein de choses, mais you gotta stand up for yourself. Se séparer, c'est une décision très critique où on va. Moi, on m'a déjà dit ça. On m'a dit, Geneviève, on s'entend-tu que tu t'es choisie, là? Je suis obligée d'admettre que je me suis choisie. C'est tough, but I did. And I have to stand up for that. C'est très difficile. Donc, ce genre de décision-là, c'est comme si du jour au lendemain, tu te retrouvais seul face à toi-même. Quand tu es seul face à toi-même, tu as le choix de continuer à croire ta bullshit sur différentes choses ou de te faire, moi, ce que j'appelle un examen de conscience. Ce temps-là m'a permis de faire un examen de conscience puis d'être capable d'admettre que j'avais des valeurs, mais des fois, je les changeais en fonction de ce qui me tentait. Donc, j'étais capable de redéfinir avec mon ego que le nouvel ordre de valeurs que j'avais mis en place était correct. J'ai fait ça une couple de fois. Donc, je me suis questionnée sur mes valeurs. Je me suis demandé qu'est-ce qu'il fallait changer dans mes comportements, dans mon mode de vie puis dans mon attitude pour que mes valeurs, je puisse les prioriser, les mettre de l'avant puis stick for it. Donc, ça, c'est un des éléments. Le deuxième élément, c'est que pour la première fois dans ma vie, je suis entrée dans un réel intérêt d'être en relation humaine avec une autre personne. Parce que quand tu as souffert, puis que tu es tout nu, puis que tu sais tes armures, là, puis c'est fini, là, le shield, puis toute la patente, puis ta belle histoire, puis tu parles avec une personne, puis tu te rends compte qu'elle aussi a vécu des choses, puis que tu es dans le dialogue humain, puis c'est pas une question de grande confession, mais il se passe quelque chose d'exceptionnel. Donc, tout d'un coup, ça m'a donné une sensibilité, un langage commun, un intérêt envers l'être humain. Pas parce qu'il n'a jamais été là, mais il avait un peu disparu. Il était devenu secondaire. L'intelligence émotionnelle, là, la sensibilité pour moi, là, c'était plus une faiblesse qu'une force. Et c'est là vraiment là, que j'ai rebrassé beaucoup de choses dans mon état intérieur.
Wow! Puis tout ça parce que tu t'es offert un espace nouveau?
J'ai envie de dire que tout ça parce que je l'ai dit souvent... En tout cas, je vais parler pour moi. Moi, j'apprends pas par la vertu. J'aimerais ça vous dire, j'ouvre un livre, là, puis je me dis, hey, « Wow, c'est bon, ça, je vais mettre ça en place, puis je vais être une meilleure version. » C'est pas comme ça que ça marche pour moi. Ça prend deux choses, tu l'as dit. Créer un espace. Quand on est pris... Moi, le père de mes enfants était chez McKenzie. On était dans un rythme, dans une vie que je... Tu sais, quand on dit une vie à la mode, là, je veux dire, mur à mur, un rythme... Il n'y a pas d'espace. Quand il n'y a pas d'espace, tu ne peux pas te questionner à savoir comment tu files. Toi, tu es rendu où dans ton espace émotionnel? Avoir un plein alignement de ta lecture, ça, j'ai envie de te dire que ce que tu dis, c'est vrai. Ça prend fondamentalement un espace. Quand tu as l'espace puis tu as la prise de conscience qui embarque ou l'ouverture, honnêtement, il peut se manifester des choses exceptionnelles.
Merci, Geneviève, pour ce témoignage. Je sais qu'à la suite de ça, tu reçois un appel peut-être d'un chasseur de tête, tu te retrouves au groupe Biron, où on te convainc d'embarquer dans l'aventure parce qu'ils veulent faire des acquisitions, puis ils te voient faire des acquisitions, mais au bout de 18 mois, il n'y a pas d'acquisition.
Ouais.
Et là, tu redécides de requitter, n'est-ce pas? Et tu te retrouves sans emploi à nouveau. Mais tu as fait quelque chose entre-temps, et c'est la COVID, hein? C'est la COVID à ce moment-là, mais tu as fait quelque chose entre-temps, tu as postulé pour devenir administratrice de Via Rail. Moi, je veux juste vous dire que dans mon monde à moi, on se fait appeler pour faire partie d'un conseil d'administration, mais dans le monde de Geneviève, elle postule.
Ouais.
Et je suis en admiration, Geneviève, devant toi, quand tu poses de tels gestes, tu vas chercher ce que tu veux. Et tu as été choisie. Et ça a été payant. Hein? Je ne sais pas si ça a été payant. Tu as travaillé fort. Parce que pendant ton congé post-Biron, tu as eu 56 réunions, je pense pendant un an, parce qu'on était COVID, crise du transport. C'est quand même assez impressionnant. Mais là, tu te retrouves encore sans emploi parce que tu quittes aussi Via Rail une fois que c'est terminé tout cela, une fois que ton mandat est terminé. Alors, tu as une deuxième pause, dans le fond, dans ta vie. Parle-moi-en de cette deuxième pause-là. Là, tu commences à aimer ça, là.
La pause, ouais, quitter.
La pause, quitter.
Ouais, donc, en fin de compte, puis je vais revenir sur deux choses. Biron, Groupe Santé, c'était vraiment un rôle qui était dessiné, tu sais, c'était... Si vous connaissez la famille Biron, Geneviève Biron, c'est un lead dans son secteur au Québec, avec un plan de faire des acquisitions, sortir du marché. Pour les gens qui me connaissent, là, moi, tu sais, une croissance de 2%, là, je sais pas quoi faire dans le monde corporatif là-dedans. Puis, il me faut soit une bonne crise ou une bonne grosse croissance ou un changement complet. Mais tout ce qui est statu quo pour moi, c'est comme si je trouvais pas cet oxygène-là. Donc, effectivement, tu sais, c'était, puis je me rappelle parce que mon mari est là, puis on était, durant la période de Noël, puis là, je le savais. Tu sais, quand on veut faire des acquisitions, il faut que ton CEO, il live and breathe by that. Ce qui veut dire que ça peut pas devenir un sujet à l'ordre du jour une fois par deux mois. Il faut là qu'il regarde des deals, fasse des propositions, un peu comme l'immobilier. Là. Tu sais, t'es dans le game. Puis éventuellement, bien, j'ai fait des trucs opérationnels, mais je me suis vite rendu compte qu'on serait pas actif en M&A. Donc, moi, après 18 mois, me sentant pas pertinente, puis j'appelle Geneviève, je me rappelle, ça devait être le 27 décembre à Noël, elle était à son condo en Floride, puis là, j'ai dit, Geneviève, faut que je te dise, puis là, j'ai l'impression, faut que je me pende moi-même, puis je lui ai dit, je comprends pas pourquoi tu as un groupe de développement corporatif, puis tu me payes aussi cher pour pas faire d'acquisition. Fait que moi, je vais quitter. Puis elle m'a dit, ça fait du sens, puis on aurait peut-être pu trouver d'autres rôles, mais je pense que... Fait que j'ai fait ce choix-là encore de quitter. Mais j'avais été nommée, moi, au Fonds de solidarité pendant que j'étais au Fonds de solidarité. D'ailleurs, ils m'avaient dit non, mais j'avais été convaincante. Transport Canada a fait le processus d'ouvrir un poste d'administrateur sous le conseil d'administration de Via Rail. Donc, c'est un processus fédéral. Hein, tu connais ça, Séverine, les processus fédéraux. Je fais ça de par moi-même chez nous, pas de headhunter, etc. Ça a pris 18 mois. Et j'ai fait plusieurs entrevues et j'ai eu le rôle chez Via Rail. Donc, tu as absolument raison. Le 7 mois que j'ai pas été à l'emploi de Biron avant que je commence chez Ange Québec, ben là, c'était la crise du transport, la crise du leadership, la crise des Autochtones. Moi, j'étais au comité d'audit, là. Je veux juste vous dire, on avait 29 risques, 28 étaient dans la case rouge en haut. Et, on a eu 56 réunions des différents comités du conseil en 15 mois. Ça a été l'expérience qui m'a fait passer dans le cours des adultes en gouvernance. Les exécutifs viennent. Ils sont habitués d'avoir 8 variables là, sur lesquelles ils prennent des décisions, puis là, il y en a 7 qui sont inconnues. Et là, tu as 3% de revenus, tu as 3000 employés. Là, il y a une crise de leadership par-dessus ça. Tu es au comité ressources humaines, au comité audit. Mais c'est l'expérience la plus enrichissante. Ça vient de tous les côtés. Je la vis au conseil d'administration sans être exécutif. Thanks God, parce que c'était toute une ride pour les exécutifs. Puis là, il faut vous rappeler là, qu'à chaque semaine, on pensait que ça allait repartir. Donc, les exécutifs venaient nous faire on appelle ça des « resumption plans », des remises en démarrage des équipements. Puis, à toutes les 2 semaines, on changeait d'idée. Donc, on avait beaucoup, 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 beaucoup de décisions à prendre. Et puis, l'exécutif n'a jamais eu besoin autant de son board. Mais quelle expérience! Quand tu y penses, quand tu étais dans l'industrie touristique, l'industrie du transport, honnêtement, il y a une. Si je n'avais pas vécu la crise du COVID à travers les lunettes de Via Rail, je serais passée à côté comme exécutif. Et je ne serais pas le corps de l'exécutif que je serais aujourd'hui à gérer la complexité requise qui s'en vient dans nos organisations.
Ouais. Puis tu es allée la chercher, cette job-là. Félicitations encore. Là, on t'approche pour être PDG d'Ange Québec, puis tu hésites. Qu'est-ce qui te manque? Pourquoi tu hésites?
Bien, d'abord, je me suis vraiment demandé c'était quoi ça, Ange Québec, quand ils m'ont appelé. Donc, en fin de compte, moi, je m'en allais, je faisais mes tests psychométriques, je commençais le lundi. Donc, on démarrait un nouveau fonds dans quelque chose que je connaissais, un petit peu plus private equity que venture, donc avec un beau titre, super bien rémunéré. Puis là, le marché, là, au mois de septembre, là, dans le COVID, là, c'était pas hot. Là. Il y avait comme personne au centre-ville. Là. Fait qu'à un moment donné, tu sais, je voulais prendre mon temps, mais pas tant que ça. Là. Donc, j'ai eu 3 propositions qui ont convergé. J'ai accepté ce rôle-là. Je faisais des tests psychométriques. Et là, j'ai Spencer Stewart qui me téléphone et qui me dit, Geneviève, c'est Louis-Daniel, là, quand il t'appelle. Donc, à la blague, je suis mariée avec un excellent headhunter, mais ça, c'est l'autre excellent headhunter. Donc, c'est un peu compliqué dans notre histoire d'amour à trois, mais Louis-Daniel, c'est mon headhunter qui me... Puis quand Louis-Daniel t'appelle, en général, t'écoutes. Fait que là, j'ai dit, mais tu sais, Louis-Daniel, c'est quoi ça, Ange-Québec? T'sais, moi, je connaissais pas ça. Là, il m'a dit, Geneviève. Puis j'ai dit, pourquoi tu veux que je considère ce rôle-là? T'sais? Fait que là, je regarde l'enveloppe compensation, c'est la moitié de l'autre. Puis là, j'essaie de comprendre, puis il dit, ben regarde, je vais être très clair avec toi. Il dit, c'est un rôle de leadership dans une industrie que tu connais. C'est un peu plus tôt, là. Tu sais, tôt, là, ça veut dire que c'est pré-revenu. On appelle ça du seed, du pre-seed dans notre langage. Il y a un projet de lancer un fonds, mais c'est pas pour ça que je pense à toi. C'est que ça va être ton premier rôle de dirigeant dans une organisation dans laquelle... Puis là, j'ai dit, OK, c'est quoi la nouvelle que je sais pas? Parce que d'après moi, il y avait une vague 2, là, quand il dit « mais », là, c'est jamais... Puis il dit, c'est un mandat de transformation, puis le PDG est déjà parti, puis là, ta-ta-ta, puis là, je me dis, wow, OK, ça, c'est compliqué. Donc, et en 3 jours, je leur dis, ben là, vous avez 3 jours, parce que moi, je commence lundi, techniquement, vous avez 3 jours que je passe au board, me convaincre que c'est un bon rôle pour moi, puis je vais faire toutes les entrevues. Donc, en 3 jours, ils m'ont convaincue. Puis là, je me suis assise avec mon mari, puis j'avais envie de prendre des risques, puis j'avais surtout envie de valider une chose, et il fallait que je le valide, c'est qui suis-je comme leader? Et ça, c'est quelque chose que j'avais jamais fait, parce que moi, j'ai commencé par la gouvernance. Je savais c'était quoi être un professionnel de l'investissement, mais diriger une organisation... Donc, ce que ça veut dire, c'est trouver la trajectoire, embarquer tes équipes, définir le plan d'action, et ainsi de suite. Puis on lance un fonds d'investissement qui s'appelle AQC Capital. Mais ça, c'est un autre métier. Ça, c'est autre chose.
Et là, je comprends bien, tu vas quitter Ange-Québec, là, c'est incessant, là.
Mais je le dis...
C'est une blague.
Donc,
c'est une blague des gens d'Ange-Québec, c'est une
non,
blague.
Non, puis en fin de compte, c'est que... Les gens qui me connaissent, et quand je vais quitter Ange-Québec, les gens savent que je vais le planifier, je vais le prévoir, je vais le construire, et c'est comme ça que je suis construite. Donc, moi, tu sais, le plan de relais, je me rappelle quand je suis arrivée chez Ange-Québec, tu sais, dans la première semaine, je me suis dit, OK, c'est qui peut prendre ma job ici, là? Donc, c'est pas parce que j'étais pressée de partir, mais je trouve que c'est essentiel de savoir c'est qui nos A-players, comment on peut structurer ça, s'il nous arrive quelque chose, comment on structure la relève. Donc, si je te dessinais mon plan, tu sais, ça serait de l'avoir articulé en ressources humaines, d'en avoir parlé au conseil d'administration, de prévoir ma fin, de trouver mon remplacement, puis d'avoir une date. Ça, c'est exactement comme ça que je vais le faire.
Je vais me permettre une dernière question avant de passer au questionnaire Brave. Je veux savoir pourquoi tu m'as approché pour faire cette entrevue-là.
C'est une bonne question. Donc, Marie-Josée m'a dit, d'abord, c'est moi qui l'ai contactée. Et j'en ai fait quelques entrevues depuis 2 ans. J'en ai parlé, là, du parcours professionnel, des femmes, l'investissement, l'intelligence artificielle. J'en ai fait beaucoup. Et quand j'ai vu ton contenu, dans ma démarche personnelle, il y a un élément sur lequel je me développe beaucoup. C'est avoir je t'ai parlé souvent de ça, la pleine intégrité, mais avoir de la cohérence entre mon parcours d'aujourd'hui et d'où je viens. Et il y a eu un moment dans ma vie où je pense que j'ai voulu un peu déconnecter de cette phase-là. Et juste pour faire une mini-parenthèse, tu sais que je suis devenue au curateur responsable de ma grand-mère à l'âge de 39 ans. Et ça m'a reprojetée dans ces phases-là de ma vie. Mais je t'ai téléphoné parce que je me suis dit, il faut absolument que je me porte à cet exercice-là de me dévoiler et de dire les choses telles qu'elles sont par rapport à qui je suis, d'où je viens, pour aller plus loin.
C'est épatant. On va passer au questionnaire brave. Que fais-tu chaque jour pour te donner du courage?
Pour avoir du courage, pour moi, je dois être dans une forme impeccable. J'ai besoin d'une grande, grande énergie vitale. Alors, je suis extrêmement disciplinée à dormir, à me mettre dans cette posture-là. Et mes décisions courageuses, je les prends le matin. Donc, pour ceux qui me connaissent, je passe beaucoup de temps à investir dans cette énergie-là parce qu'on ne peut pas être courageux si notre énergie vitale n'est pas extrêmement élevée.
C'est quoi être brave pour toi?
Pour moi, être brave, c'est quand on doit choisir ses valeurs puis ça nous coûte quelque chose. C'est facile d'avoir des valeurs, mais c'est quand il faut agir sur ses valeurs puis il y a un trade-off. Et pour moi, c'est ça.
Qu'est-ce que tu dis pour t'encourager?
Pour m'encourager, c'est drôle, je me parle dans le miroir. Donc, je m'adresse à moi. Je pense à ma mini-version de ce qu'elle pourrait me dire. Mais je fais beaucoup de communication mentale, alors j'essaie de me projeter.
Puis à quel moment de ta vie n'as-tu pas été brave?
Quand j'ai pas donné assez de temps et d'espace dans une expérience difficile qui était pour moi ma séparation pour être capable de prendre la meilleure décision. Si j'avais à me donner un conseil aujourd'hui, ça serait de pas être aussi pressé. Puis la bravoure, c'est aussi de prendre le temps de faire les choses.
Quelle personne incarne le mieux le courage, selon toi?
Bien, je dirais que depuis 2 semaines, c'est beaucoup Alexis. Donc, j'espère que je vais dire correctement son nom de famille, Navalny, donc, qui est l'opposition russe. Là, j'ai suivi son histoire. Mon mari m'a donné son livre durant la période de Noël. Et puis, je retiens 2 choses. D'abord, c'est un homme qui avait arrêté d'avoir peur. Donc, ça, c'est dans le contexte où il était par conviction de ce qu'il voulait. Et ça, pour moi, ça me frappe parce que pour affirmer ses valeurs et ses convictions, c'est un homme qui a sacrifié beaucoup de choses.
Et qu'as-tu envie de dire aux jeunes pour les encourager?
De s'engager dans la game, d'entrer dans le débat, de vous dire que cette voix-là intérieure qui parfois votre imposteur, elle nous quitte jamais, c'est juste une question de qu'est-ce qu'on lui donne comme espace puis comment on l'adresse. Voilà.
Merci infiniment, Geneviève.
Merci.
Geneviève a appris sur elle, non seulement par coup de pelle, comme elle le dit, mais avec le cœur et l'esprit grand ouvert. Et ceci lui permet, aujourd'hui, de mener une vie basée sur l'intégrité, l'authenticité, la connexion humaine. Son empire est plus solide que jamais. J'ai d'ailleurs très hâte de voir la suite. Merci, chers braves, d'avoir été à l'écoute encore une fois et à très bientôt.
Brave, la série d'entretiens avec des femmes qui ont du cran, est une idée originale de Marie-Josée Gagnon. Osez nous rejoindre sur notre site web à braveinspiration.com, de même que sur les médias sociaux. Si vous avez aimé ce balado, osez vous y abonner et osez le partager. Merci de nous écouter.